hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir avec Jean Nouvel. Votre premier souvenir de votre corps dans l'espace?
Je pense que mon premier souvenir, tout simplement, il correspond bien effectivement à mon corps dans l'espace, c'est de courir pour aller me cacher dans un carré de pommes de terre pour éviter l'infirmière qui arrivait là.
Qu'est-ce qu'elle vous voulait, l'infirmière?
Elle voulait me vacciner, sûrement. Oui, mes premiers souvenirs sont liés toujours à des sensations de jardin, d'espace. J'ai des souvenirs assez étonnants aussi comme ça, des souvenirs prémonitoires presque. J'avais pris une éponge et de l'eau et j'avais entrepris d'effacer toutes les fleurs du papier à pain qui était dans ma chambre. Donc on m'a découvert. Enfin, je vais avoir 3 ou 4 ans, je sais pas.
Donc il fallait de l'espace neutre, il fallait du blanc.
Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Enfin, ça ne me plaisait pas, voilà.
Et le jardin, c'est un espace protecteur quand vous étiez petit?
Oui, c'est un espace lié à toutes les sensations des produits du jardin, l'abricotier en particulier, les abricots trop cuits comme ça, ou trop cuits par le soleil, trop chauds. C'est ça qui crée les madeleines, en fait.
Le premier tableau que vous ayez vu?
Je pense que mes premiers souvenirs d'ordre artistique et pictural, comme ça, c'est un plafond peint à Sarlat, dans l'hôtel du 17e où on habitait, et qui était vraiment effacé, caramélisé, et on devinait des anges dans l'obscurité, comme ça. Et j'ai passé un certain temps à essayer de décrypter cela.
Donc vous avez vécu votre enfance et votre adolescence dans un lieu patrimonial?
Oui. Avec des vitraux, avec une grande cage d'escalier, des fers forgés. Oui.
Et vous vouliez devenir peintre?
Plus tard, ça, beaucoup plus tard. À cette époque-là, je voulais être simplement capitaine des pompiers, ça me suffisait.
À partir de quand vous avez commencé à regarder le ciel?
Ah, je regarde le ciel depuis toujours, j'ai l'impression. Parce que le ciel, c'est une fascination d'été, surtout. Quand on était en vacances aussi sur les terrasses... La façon de décrypter le ciel était importante. En plus, je suis né la nuit des étoiles filantes, le 12 août. Donc, c'est une façon de... Je suis né sous une étoile filante, voilà.
Y a-t-il des endroits où on a l'impression qu'on a plus la nécessité de regarder le ciel et où le corps dans l'espace paraît plus plein?
Non, mais le ciel, c'est toujours ce qui crée la lumière. Donc, c'est pas automatiquement le ciel... En tant que dimension toujours métaphysique et complètement cosmique, c'est aussi les raies de lumière à travers les nuages, c'est aussi toute la ville qui devient grise, c'est aussi à Paris, c'est formidable, les ciels de Paris, c'est quand même... Et chaque lieu a ses lumières, et l'architecture est très sensible à ça, on travaille toujours en fonction des lumières des lieux, et des colorimétries aussi. Si la Philharmonie est si grise, c'est pas par hasard.
Alors justement, par rapport à ce que vous faites, Jean Nouvel, il y a dans la construction et l'élaboration même de ce que vous imaginez, il y a toujours la possibilité de reflet de la lumière. Pourquoi?
Oh, je joue sur les reflets, je joue sur le mat aussi. Hein, on joue toujours sur les contrastes. Mais le reflet, c'est vrai, c'est un signe de complexité. C'est un symbole de vie, c'est comme un œil finalement. Et les matériaux d'aujourd'hui, l'évolution en particulier des techniques sur le verre, nous permettent de jouer avec des architectures naturellement réfléchissantes presque. Ce qui est un peu dommage, c'est que beaucoup d'architectes s'en servent sans même en avoir conscience, on a l'impression, sans jouer avec cela. Mais je crois effectivement que tous les jeux qui sont basés sur le reflet créent des interrogations, créent de la poésie souvent. Je parlais de la Philharmonie là, mais elle est basée sur du mat et sur du brillant. Le plissé qui est autour est totalement miroir en fait. Et la nuit, on ne devrait voir que les reflets des phares et des feux rouges d'un côté.
Mais c'est ce qu'on voit quand on prend le périphérique.
Et que le parc qui devrait être éclairé et qui ne l'est pas, de l'autre côté. Et ce miroir est micro-perforé, et de temps en temps, on voit des petits points passer dedans, et on découvre... Donc tous ces jeux-là sont des jeux sur le vocabulaire architectural qui ne pouvaient pas exister il y a encore quelques décennies.
Alors, ce n'est pas seulement l'évolution des technologies qui vous permet de créer des espèces de... Finalement, de grosses...
On a plus de facilité à le faire.
Oui, mais...
C'est un vocabulaire qui se met en place d'une autre façon. Le vocabulaire
vous
avec
voulez
le
dire,
verre...
Vous avec... voulez dire que l'évolution des technologies vous permet de réaliser plus vos fantasmes et d'accomplir oui. plus des choses qui étaient dans votre imagination que, par exemple, il y a 30 ans.
Oui, puis je crois qu'en plus, toute création est en relation avec une culture beaucoup plus large et beaucoup plus transversale, héritée souvent des arts plastiques, du cinéma, de tout ce qui est visuel, de la production d'images dans le monde. Et effectivement, on se sert des matériaux aujourd'hui, qui sont souvent des matériaux de grand format, par exemple, des matériaux qu'on peut courber avec le verre d'aujourd'hui, des matériaux qui ont différents degrés de réflexion ou de profondeur. Et ça, c'est très important. On peut jouer aussi sur les superpositions d'images, parce que c'est le principe du miroir sans teint. On a beaucoup de miroirs qui sont là pour protéger un peu du soleil, mais on voit à certains moments, si on éclaire un peu derrière, on voit ce qu'il y a derrière. Donc on superpose une image réfléchie avec ce qui est derrière.
Oui, mais pour revenir à la Philharmonie, on a l'impression que peut-être, dans votre vocabulaire architectural, vous êtes allé encore plus loin que dans les autres bâtiments, parce que, en tout cas, quand on le voit, on pense à une espèce de bête préhistorique, on pense à une espèce de poème peut-être déployé dans l'espace de la nuit, dans la ville, etc. Est-ce que les instruments dont vous disposez aujourd'hui vous permettent d'aller encore plus loin par rapport aux rêves que vous aviez? Et qu'est-ce qui préside à l'élaboration d'un bâtiment? Est-ce que c'est le cahier des charges ou c'est une idée comme ça poétique?
C'est évidemment une idée. Mais sur la Philharmonie, c'est avant tout un paysage. C'est la continuité du paysage créé par Bernard Tschumi. C'est un bâtiment fait pour être escaladé. C'est un belvédère. Donc j'ai dit que d'une certaine façon, il y avait l'expérience... début de Chaumont derrière ça, finalement. On monte et on regarde Paris, et là, on regarde Paris d'un côté et de l'autre, le grand et le petit, quoi.
Donc
et
c'est le contexte, d'abord.
Donc c'est, oui, mais le contexte, c'est plus que la géographie, ou c'est plus que le lieu. Mais là, c'est ça. Et effectivement, le bâtiment lui-même, après, c'est un objet trouvé comme ça, qui appartient à la fois au pays, qui peut être un objet paysage, qui peut être... un objet symbolique aussi, parce que finalement tous les thèmes de l'envol ou du tourbillon sont des thèmes qui sont métaphoriques par rapport à la musique. Il y a toujours l'allégorie de la musique qui est quelque part, il faut la chercher.
Quels sont vos rapports avec vos tutelles politiques après cette histoire qui s'est très mal terminée de la Philharmonie?
Mais elle n'est pas terminée.
Vous êtes toujours en procès contre les tutelles.
Oui, bien sûr. Mais le bâtiment, alors faut corriger un peu ce que je lis quand même. J'ai jamais renié ce bâtiment. J'ai renié les conditions de construction de ce bâtiment et je me bats pour qu'il soit terminé correctement.
Alors, faut rappeler rapidement qu'on vous a demandé de le faire. Enfin, on vous a demandé une date d'inauguration qui ne correspondait pas à l'état de finition tel que vous le souhaitiez de votre propre bâtiment.
Oui, c'était pas uniquement la finition, c'est déjà le bâtiment était massacré, je veux dire, ou saboté dans pas mal d'endroits. Et il l'est toujours.
Donc c'est pas votre œuvre.
Non, mais ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que ça veut dire être architecte? Ça veut dire être auteur d'une œuvre?
Oui.
Bah, auteur d'une œuvre, c'est aller jusqu'au bout.
Ce que j'ai reproché aux différents ministres de la culture qui se sont occupés de ça, c'est de ne pas défendre les auteurs, justement, et considérer et se rappeler que l'architecture est un art et qu'une création, en particulier pour des bâtiments comme ça, mais à peu près pour tous ceux qui sont faits par un architecte, ce sont des bâtiments qui sont des créations et on ne peut pas les changer sans l'accord de l'architecte. Et là, c'est même pas les changer. Là, j'ai été mis sur le côté pour des raisons purement financière, pour que je ne connaisse pas le prix du bâtiment et pour que d'autres ne le connaissent pas, ça c'est le fond du sujet, on y reviendra sûrement dans les mois ou années qui vont venir, mais ce qui n'est pas admissible...
Vous avez tenu votre budget ?
Mais, évidemment que j'ai tenu mon budget, mais...
Pourquoi cacherait-on des choses ?
Bon, ça c'est une histoire compliquée, mais c'est-à-dire que déjà, alors si on parle de ça quelques minutes, le prix... qui a été décidé par le maître d'ouvrage, par le client, pour construire ce bâtiment qui a été proposé aux architectes, était un prix totalement infaisable, reconnu par la Cour des comptes, etc. Et on nous a dit, si vous répondez pas à ça, votre projet ne sera pas regardé.
Vous avez accepté ces conditions d'infaisabilité.
Oui, d'accord. Ça, c'est ce qu'on entend toujours, mais il faut quand même connaître les lois. C'est-à-dire que quand un architecte répond sur une estimation... Il sait qu'il peut revenir dessus après en proposant des économies aux clients. Et il sait que jusqu'au moment où il n'a pas rendu l'avant-projet détaillé, c'est à ce moment-là qu'il donne son prix définitif. Il est en négociation avec le client et le client, s'il n'en veut pas, s'il dit « Monsieur, vous êtes trop cher », il ne vous prend pas. Bon, mais je veux dire, on ne peut pas avoir, c'est la traditionnelle image, une Ferrari pour le prix d'une deux chevaux. Bon, mais c'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que si on ne donne pas le prix qui est déterminé en fait par les prestations, ce qui fait les 9/10 du prix, c'est pas les caprices de l'architecte, contrairement à ce que pensent les gens, c'est les prestations. C'est-à-dire si on fait une salle comme ça, elle représente des dizaines de milliers de mètres cubes. Il y a des ventilations qui sont contrôlées en bruit de façon extraordinaire. Il y a des détails techniques et des sophistications qui font qu'on connaît très bien le prix d'un fauteuil pour une grande salle symphonique. On le connaît très bien.
Mais c'est combien?
C'est 100 000 euros.
Le fauteuil?
Oui, enfin, le fauteuil, c'est pas le fauteuil. Le fauteuil, c'est une unité. C'est 2500 places. 2500 places pour avoir toute la salle avec tout ce qu'il a fait tourner, etc.
Pourquoi ça coûte si cher?
Parce que c'est un énorme volume. Sur un siège comme ça, c'est 20 mètres de haut, déjà, ou 25 mètres de haut. Bon, ensuite, c'était en plus une salle qui était modulable. Donc, il y a les planchers qui bougent, il y a des sophistications dans tous les coins.
Vous êtes senti floué.
Un moteur au mètre carré, ça coûte très cher aussi.
Vous êtes senti floué, Jean Nouvel, et ce qui a peut-être encore de plus important, même si cette histoire n'est pas encore terminée, c'est peut-être que l'architecture est en train de changer de définition, et vous parlez de client, là le client c'était...
L'État et la ville.
C'est peut-être que la place de l'architecture dans la cité est de plus en plus réduite à un rôle de prestataire.
Mais
et
ça.
Non pas peut-être d'auteur, d'acteur.
L'architecture est vraiment sous-estimée maintenant. On ne sait plus ce qui est architecture et ce qui n'est plus. Je crois qu'il faut reconquérir le droit d'architecturer. C'est une des bases sur lesquelles on veut se battre maintenant. Pas les architectes, c'est pas un problème corporatiste du tout. Si les architectes ne sont pas là pour prendre des décisions d'ordre esthétique et sensible, il y a personne qui les prend. C'est pris par des technocrates, c'est pris par des techniciens qui sont en général des techniciens d'infrastructure, c'est pris par des spécialistes d'autres disciplines, sociologie ou autre. Mais il y a une vraie réalité de l'espace. Et finalement, la mutation de la ville et tous les problèmes de l'urbain ont éliminé la spécificité de l'architecture. On a voulu faire croire que l'urbanisme était une science en soi, mais l'urbanisme, c'est l'architecture à très grande échelle. Et il faut la considérer en termes sensibles. Même développer une ville d'un côté, de l'autre, en fonction d'un paysage, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, c'est pas des décisions technocratiques, c'est pas des décisions de densité, c'est pas des décisions d'autoroute ou de nœud routier, c'est une décision sur le mode de vie, et ce sont des décisions qui ont des conséquences énormes sur la vie de tout le monde. Et quand on laisse ça déraper de tous les côtés, y compris dans les programmes, les logements sont de plus en plus petits, les logements sociaux. De plus en plus petits, de plus en plus chers. C'est pas parce qu'on vit en ville ville qu'on en vit beaucoup plus mal qu'à la campagne. Bon, et c'est pas, et je vois pas ce qui peut justifier de la part du politique de laisser construire des logements aussi petits pour que les gens soient toujours dehors, et surtout quand les logements sont des logements sociaux, c'est pas étonnant.
Et dehors, on les accueille pas non plus.
Dans les cages d'escalier ou en bas des rues, mais c'est tout à fait normal. Ce qui s'est passé là, quand même, c'est bien quand même le fait qu'on ne soit pas occupé du tout des zones sensibles, des quartiers difficiles, pendant des décennies. Et tous les régimes politiques sont bien en cause. Et
avez construit, vous, un quartier populaire, il y a maintenant 30 ans, qui fonctionne toujours très bien. Est-ce que vous pensez que les tutelles politiques prennent en charge véritablement la politique de la ville, et à quoi
c'était
sert ce ministère?
C'était un quartier populaire, vous faites allusion à Nemosus,
oui,
sûrement.
Oui, Nemosus.
Mais justement, ça, c'était quelque chose qui avait été possible par une décision politique qui était intelligente, c'était de faire des réalisations expérimentales. On devait garder le prix de construction, mais on avait le droit de ne pas respecter les normes habituelles. Donc ça m'a permis de construire des logements plus grands dans le même prix. Mais quand on fait des démonstrations comme ça, on se met tout le monde à dos. Tout le mouvement HLM et tout ça me sont tombés dessus. Ça n'a pas fait.
Mais
ça,
les habitants, ça, ils sont précipités à Nemosus et ils y vivent toujours avec beaucoup de joie.
Les habitants, ils se sont battus pour conserver Nemosus parce que quand la municipalité a changé, ils ont voulu ramener le prix à la surface corrigée, ce qui faisait monter tous les loyers et les gens étaient obligés de partir. Bon, mais ça s'est à peu près arrangé. Mais c'est pour dire qu'il suffit pas de faire une chose et de le prouver. Il faut encore que ça passe dans les mœurs.
Et aujourd'hui, le ministère de la ville, il sert à quoi, si ce n'est à un ministre de dire qu'il y a des Molenbeek un peu partout en France? Approuvez-vous ces propos?
Non, aujourd'hui, sur le plan urbain, on récolte ce qu'on a semé. Il faut absolument accélérer la mutation de la ville. Il faut partir de ce qu'est le logement. Les mutations maintenant qui sont liées aussi aux mises aux normes des logements pour des raisons thermiques peuvent permettre de les agrandir en gardant les personnes sur place, d'introduire des espaces extérieurs. Tout ça, c'est une stratégie. Ces stratégies avaient été explorées dans les études sur le Grand Paris, ça fait une dizaine d'années. Personne n'a vraiment regardé ça de près et on est reparti dans les banalités administratives et des schémas traditionnels de densité et de hauteur, ce qui fait qu'un architecte, les trois quarts du temps, se retrouve devant un volume qui est défini, la hauteur et la taille sont complètement définies, et il reste à faire les façades, les budgets sont tellement serrés qu'en fait, c'est un façadier qui n'a pas les moyens de travailler.
Et vous, alors comment continuez-vous à pouvoir être architecte? C'est parce que vous êtes une rockstar à travers le monde et que vous signez, entre guillemets, des bâtiments? Parlons des deux tours qui se construisent à Paris.
Non, mais je crois qu'il y a quand même de temps en temps un espace qui existe. Quand on fait quelques maisons individuelles dans la campagne, par exemple, on n'a pas exactement les mêmes contraintes. Il y a quand même, mais je veux dire, globalement, par rapport au fait urbain, il y a des problèmes absolument colossaux. Alors, en ce qui me concerne, évidemment, je suis appelé à travailler sur des projets qui souvent sont symboliques et emblématiques. Donc là, il y a effectivement, on attend une forme de créativité. Donc il y a quelquefois un peu plus de liberté, oui, heureusement.
Donc une architecture signale?
Non, une architecture simplement qui est en relation avec les équipements publics, souvent, avec que ce soit des musées, des salles de musique, des bâtiments comme cela, même les mairies ou des choses comme ça. Bon, il y a une dimension symbolique finalement du monumental dans la ville qui a toujours existé, et des bâtiments spirituels aussi. C'est un peu ce qui remplace nos cathédrales ou nos petites églises.
Vous pensez à quoi? Les musées, ce sont des bâtiments spirituels?
Oui, je pense, oui. Oui, tout à fait. Et les salles de musique aussi, oui, je crois. Il y a cette dimension du sacré, d'une certaine façon.
Et du recueillement.
Et du recueillement, tout à fait.
Comment imaginez-vous des espaces, justement, de recueillement en amont, Jean Nouvel?
Ça dépend ce que c'est. Ça dépend de quoi on parle. Mais chaque musée, c'est déjà...
Prenons le musée des Arts Premiers. Il y a tout un labyrinthe.
Le musée des Arts Premiers, c'est justement ça. C'est la création d'un espace sacré. Puisqu'il y a beaucoup de croyances, de religions et d'objets qui en témoignent, qui cohabitent là. Donc moi, j'ai d'abord voulu créer un territoire, créer une sorte de distance comme ça, qui est la première marque du respect, un territoire d'accueil qui soit le leur. J'ai voulu ensuite créer une initiation, c'est-à-dire le fait de rentrer dans ce bâtiment par une rampe de 180 mètres de long, on passe sous un tunnel à un moment dans l'obscurité et on ressort dans la galerie, qui est éclairée d'un côté par un grand vitrail, comme par hasard, qui représente les paysages d'où viennent ces œuvres et ces objets, et de l'autre côté au sud, qui est basé sur un moirage à travers lequel on voit Paris. Donc tous ces effets de lumière, toutes ces compositions-là, ont évidemment à voir avec une dimension symbolique.
Dans votre parcours, il y a beaucoup de bâtiments construits. D'ailleurs, quand on va sur votre site internet, c'est marrant parce qu'on voit bâtiments construits en rouge et puis non construits ou non réalisés. Donc il y a trois types.
Il y en a plus de non construits. Oui.
Oui, mais il y en a qui sont en construction en ce moment même. Oui, parlons des deux tours. Vous qui êtes un spécialiste, un inventeur de la tour.
Vous voulez parler de duo ?
Oui.
Des deux tours parisiennes.
Bah, duo, déjà, Twin Sister, duo.
Oui, mais c'est pareil. Bon, une tour, ça se voit de loin. Une tour, ça devrait être symboliquement quelque chose qui reflète le caractère d'une ville, le caractère d'un lieu. La plupart des tours qui sont construites aujourd'hui sont préfabriquées, sont prépensées. Elles ont toujours quatre murs rideaux, en gros, et puis...
Préfabriquées.
Prépensées et préfabriquées mentalement, quoi. Et ce qu'on voit partout, c'est des bâtiments qui sont parachutés, qui sont clonés, qui sur toute la planète maintenant. Bon,
Les mêmes tours partout.
Absolument. Donc on est dans ce clonage, et moi je pense que la tour doit être un objet d'architecture singulière aussi. Pour parler de duo, on est au bout de l'avenue de France. Comme on est sur un côté, cette tour se penche un peu comme on se penche pour regarder par la fenêtre, comme ça. On la voit arriver, sinon on la voit pas. Et cette inclinaison permet de refléter tous les trains qui passent au pied. Les trains qui vont rentrer vers la gare d'Austerlitz.
Encore le reflet.
Absolument, c'est basé sur le reflet. Et en même temps... Aussi, évidemment, le mouvement du périphérique, les feux rouges, les phares, etc., on aura tout ça, et le mouvement même pendant la journée. Donc ce positionnement très près du périphérique, alors que j'aurais pu mettre la tour plus loin, je la mets au plus près, à l'angle des trains et des voitures, et qui passe sa tête pour être vue depuis l'avenue de France, c'est un objet urbain, c'est un objet qui marque une porte, en fait, et c'est un objet qui sait où il est, il peut pas être ailleurs. En fait, il y a deux tours. Il y en a une deuxième qui est un peu plus petite, qui elle va jouer sur la notion de belvédère, d'un belvédère d'abord, d'un restaurant qui est là-haut, d'un hôtel, pour partager aussi les plaisirs de la hauteur, avec faire partager ça à ceux qui veulent venir, et pas uniquement de réserver ça à des sociétés privées.
Percevez-vous cette construction de ces deux tours aujourd'hui même comme une sorte de revanche après la polémique violente qu'il y a eu sur votre projet de tour Porte de Versailles?
Porte de Versailles, c'est la tour triangle. Ça, c'est Herzog et de Meuron. Et effectivement, j'ai défendu autant que j'ai pu l'existence d'une tour comme ça qui est une tour très bien dessinée, qui est une tour qui est au milieu du parc des expositions, donc qui ne gêne strictement personne, qui va permettre à des visiteurs aussi d'aller voir Paris en haut, qui est un objet singulier qui est remarquable, dont je vois absolument pas pourquoi on interdirait une tour comme ça. Je crois que les villes sont faites pour muter, sont faites pour bouger, sont faites pour s'adapter à de nouveaux modes de vie. Je crois qu'il y a des objets architecturaux qui sont là pour enrichir la ville, pour la qualifier. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des tours partout, et surtout pas dans Paris. Je toujours dis que dans Paris, quand on posait une tour, c'est presque de l'acupuncture. Il faut que ça tombe en fonction des perspectives. Il faut que ça ne gêne pas au niveau de l'ombre, tous ceux qui sont là, etc. Bon, on connaît ça très bien. Mais c'est pas une raison non plus pour les mettre uniquement le long du périphérique. Bon, avant, dans l'urbanisme haussmannien, il y avait des signes au milieu des perspectives. Les gares sont au bout. Beaucoup de bâtiments symboliques sont en liaison avec le tracé urbain. Et je crois qu'il faut continuer ça. Et puis surtout, il faut faire muter les quartiers qui sont pauvres, qui sont pas pas à la hauteur de Paris, comme le 13e arrondissement, ou le 18e, ou le 19e, qui ont des bâtiments qui étaient prévus pour une autre durée de vie. Ils pouvaient pratiquement être démolis pour la plupart. Mais les faire muter, les conserver, mais leur donner une véritable silhouette, aller vivre en l'air, bon, c'est tout ce qu'on avait abordé dans le Grand Paris, mais c'est toujours...
Quel est le bilan aujourd'hui du Grand Paris ?
Mais c'est ce que j'appelle le moyen Paris aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire qu'on a changé le périmètre, ce qui veut dire que déjà, c'est plus une métropole, c'est uniquement la première couronne, en gros. On a perdu toutes les ambitions. C'est-à-dire qu'on retombe sur le schéma directeur, on retombe sur tous les principes administratifs que l'on connaît par cœur. Rien n'a changé, rien ne change.
Et pourquoi ? Parce que ce pays n'a pas envie de réforme ?
Je crois qu'il n'y a pas
parce
de...
Parce qu'il ne se projette pas
le
dans l'avenir ?
Le politique n'a aucune conscience de cela. Aucune. Il passe devant tout ça, ça lui paraît normal. Ça peut durer des décennies encore, il trouvera que c'est normal de vivre dans des conditions comme ça. Et il trouve que ce qu'ils font au fur et à mesure qu'ils construisent, c'est toujours très bien. Là, il y a une série de logements qui vont nous tomber dessus, je crois que c'est 170 000 sur la région parisienne. Dans l'urgence, on est dans l'urgence. On va les faire le plus vite possible, les premiers terrains qui sont libres, construits par les grandes entreprises, par les majors, et ça va être une nouvelle couche absolument stupide, qui sera pas contextuelle du tout, qui prendra pas en compte ce qui se passe autour, et qui va être là sans pensée générale de la ville, sans pensée humaniste de la ville. On a besoin de poètes, on a besoin d'humanistes, on a besoin d'esthètes, on a besoin, pas pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent donner quelque chose à tous ceux qui vont vivre là. On a besoin de personnes qui aiment la nature, qui aiment travailler sur le périmètre de la vie. On a besoin de retrouver toutes ces ambiances qui étaient celles de la périphérie dans le sens le plus noble, avec les maraîchages, avec les jardins qui sont en connexion et tout ça. Tout ça, c'est pas dans leur tête du tout. Il y a rien de ça dans leur tête.
Alors vous qui travaillez dans le monde entier, qui travaillez aussi bien en Chine qu'en Australie ou en Corée, est-ce que vous avez l'impression que notre pays est très, finalement, frileux par rapport aux prises de décision et aux positions par rapport au vivre ensemble ?
Le vivre ensemble, les conditions ne sont pas les mêmes au niveau politique et au niveau du développement urbain. Ce sont les pays. Il y a beaucoup de pays... En Orient, en Amérique du Sud, en Afrique, tout ça, qui sont encore dans un développement urbain très accéléré et où ces problèmes-là ne se posent pratiquement pas, c'est-à-dire et malheureusement. Mais si on regarde au niveau de l'Europe, il y a beaucoup plus de soins qui est porté au développement urbain dans les pays du Nord, pays nordiques, Allemagne aussi, Suisse. Il y a beaucoup plus d'attention sur l'espace public, beaucoup plus de respect de l'architecture en tant que telle. Chez nous, on est vraiment très négligent.
Quelle est la mission sociale de l'architecture ? Vous qui, Jean Nouvel, depuis des décennies, avez rénové le concept même d'architecte, travaillé collectivement, institué un syndicat, vous continuez à vous battre pour une définition véritablement citoyenne de l'architecte, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, la mission, elle est d'une très grande importance ?
Mais le rôle social de l'architecte, ça peut paraître un pléonasme, ça ne l'est pas, c'est d'architecturer. C'est-à-dire, l'architecte n'est plus là pour prendre les décisions liées à l'espace, que ce soit le positionnement, que ce soit le dimensionnement, que ce soit la nature des programmes, que ce soit, il est complètement éliminé. Donc, ce qui se passe...
Il n'existe plus dans aucun cercle de la sphère publique. On ne lui demande plus son avis.
Voilà, on ne lui demande plus. Dans le phénomène urbain, essentiellement, il faut nuancer ça par rapport à certains propos ou à certains programmes qui peuvent exister au plan rural, mais dans tout ce qui est le développement général d'une métropole ou d'une ville actuellement, les architectes sont écartés de toutes les décisions qui sont essentielles et ils arrivent uniquement pour des exceptions. Quand on parle un peu d'architecture, mais c'est pas ça qui est en question.
C'est des artistes vaguement tolérés, quoi.
Oui,
on les tolère, du vivre ensemble.
On les tolère pour des bâtiments qui sont symboliques et on les embête aussi, mais même pour des choses qui sont quand même assez importantes, comme les locaux d'enseignement, il n'y a pas l'attention qu'il devrait y avoir. On est toujours dans dans un monde qui est normatif et dans un monde qui se contente de peu, quoi. Et donc je trouve ça très dommage par rapport aux générations qui arrivent là.
Nous allons écouter la voix de Paul Virilio. Virilio, qui est très important dans votre itinéraire, Jean Nouvel. C'était dans Du jour au lendemain d'Alain Weinstein le 4 mai 2004. Il va évoquer sa vocation pour l'architecture et pour l'écriture et pour ses errements dans cette vie professionnelle.
Je suis d'un milieu très pauvre et donc je cherche ma voie et très vite finalement c'est l'architecture qui va m'attirer. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant de la guerre et quelque part la destruction d'une ville comme Nantes ou d'autres a été pour moi une sorte de révélation de la relativité du cadre bâti. Et à partir de là, on a envie de travailler à la résistance, mais à la résistance architectonique, c'est-à-dire à ce qui tient, à ce qui dure, la ville, la cité.
Mmh. Vous disiez que vous cherchiez votre voie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez trouvée ?
Il serait temps. Il serait temps, oui, l'écriture, parce que j'ai enseigné pendant 30 ans à l'école spéciale d'architecture, que j'ai présidé, dirigé. Je suis encore professeur émérite. Et là, j'ai eu le grand bonheur d'être entouré d'étudiants de 50 nationalités différentes qui traitaient des questions d'architecture au moment de la reconstruction et surtout après 68, au moment où la philosophie devient plus importante pour les architectes que la sociologie ou la géographie.
En 68, vous étiez très, très engagé.
Très engagé. Oui, l'Odéon, etc. Je fais partie de ces idéalistes qui ont considéré, avec le préfet Grimaud, préfet de police, que mai 68 était la dernière révolution littéraire en Europe. Mmh. C'est comme ça que je m'y suis retrouvé engagé.
Nous venons d'entendre la voix de Paul Virilio. Paul Virilio qui était là comme une bonne fée à votre chevet d'architecte quand vous avez commencé, Jean Nouvel.
Absolument, il travaillait avec Claude Parent. Et j'ai passé cinq ans avec eux, et ça a été en fait ma véritable école. Paul parlait beaucoup, il aime ça, et Parent dessinait beaucoup, et tous les projets faisaient l'objet d'une approche tout à fait vivante, je dirais, tout à fait commentée, tout à fait. Donc je crois que Paul Virilio, c'est effectivement quelqu'un qui a mis en relation l'architecture avec des stratégies comme Claude Parent. L'invention de la fonction oblique était évidemment sur le plan théorique et utopique quelque chose de tout à fait neuf et qui a porté des fruits dans ses influences auprès de nombreux architectes, dont je suis le premier évidemment. J'ai dédié ma philharmonie à Claude Parent. Mais effectivement, c'est un bâtiment qui est parcourable. Il y a beaucoup de rampes, il y a beaucoup de choses qui sont. Mais ça se vit très naturellement. C'est pas. Donc c'est une autre façon de vivre la ville. C'est une autre façon d'introduire.
C'est l'accidenté qui permet la géographie et la prise de repère. En fait, vous invitez les gens, nous tous, à comprendre vos bâtiments pour qu'on y trouve nous-mêmes nos repères, mais en nous interrogeant. Vous donnez pas des bâtiments tout simples.
Non, mais je crois que chaque bâtiment, c'est une aventure. Ça devrait être une aventure. Ça devrait être une création. Et avec le développement des techniques aujourd'hui et de l'ordinateur, on va exactement dans le sens inverse, vers ces bâtiments qui sont pré-pensés. Je crois que la relation d'une architecture à un contexte, et pour ça je me prétends toujours contextuel, mais dans le sens le plus large, le contexte, il est humain. D'abord, on construit pour quelqu'un, on construit avec des personnes. Normalement, on doit faire partie d'un dialogue constructif qui devrait influer aussi sur le programme. Souvent, on peut proposer des évolutions. Le processus même de construire est un processus itératif et qui permet à chaque moment d'inventer quelque chose. Donc c'est pas du tout les systèmes codés avec lesquels on nous fait construire aujourd'hui, où on a 3 semaines pour faire ça, où on peut rien changer, où on peut rien proposer. On a l'impression que les architectes sont déresponsabilisés, quoi.
Tout à l'heure, Paul Virilio parlait de résistance.
Oui.
Est-ce que la résistance n'est pas encore plus importante aujourd'hui dans le mouvement de l'architecture ?
Elle est très importante et bon, nous sommes un certain nombre à parler de certaines formes d'action qui verront sûrement le jour dans les mois à venir.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire parler du fond des choses et en parler directement en termes politiques.
Alors en 2005, Jean Nouvel, vous avez écrit un manifeste qui s'intitule « Le manifeste de Louisiana ». Je vais en dire quelques mots parce que je pense qu'en 2016, rien n'a changé, hélas, malgré le temps qui s'est écoulé. Voilà ce que vous écriviez. En 2005, plus que jamais, l'architecture annule les lieux, les banalise, les violente. Elle est extension de notre monde au moment où celui-ci rapetisse. Au moment où nous parcourons ce monde en tous sens de plus en plus vite, où nous écoutons et regardons à travers les mêmes réseaux planétaires, partageons l'émotion des mêmes catastrophes, où nous dansons sur les mêmes hits, regardons les mêmes matchs, où on nous abreuve des mêmes films, où la star est planétaire, où le président d'un pays veut diriger le monde, où nous achetons dans des shopping centers dupliqués, travaillons derrière les mêmes et sempiternels murs rideaux, et où les quelques avantages qui devraient découler de cette réduction ne font pas partie des priorités globales, que faire ? Aujourd'hui, on est en 2016.
C'est l'actualité.
Voilà, rien n'a changé. Comment avancer ?
Mais il faut avancer en révélant cette situation et en faisant bien comprendre qu'il ne s'agit pas là de quelque chose de totalement léger et secondaire. C'est quelque chose de fondamental. L'habiter, c'est quelque chose qui formate les individus qui habitent un lieu. C'est pas quelque chose de neutre. Donc aujourd'hui, on se retrouve devant les conséquences, même politiques. La plupart des terroristes dont on parle, on sait d'où ils viennent. Ils viennent de la banlieue et des quartiers difficiles. Je crois qu'il faut vraiment prendre en compte le fait d'orienter et de prendre toutes les décisions sensibles par rapport à la mutation urbaine. Il ne s'agit pas de tout démolir.
Vous n'êtes pas pour la destruction des bars.
La destruction des bars, on a détruit des bars pour reconstruire des petits morceaux à côté, avec le même programme, avec les mêmes tailles de logements. Donc le résultat, c'est qu'il y a moins d'espace libre. Donc on peut plus faire des terrains de sport et on peut plus mettre des équipements. Mais c'est cette ségrégation qui est en cause là. C'est-à-dire que actuellement dans les US, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas les équipements culturels qui correspondent à leur culture. Il y a des appartements qui sont trop petits. Bon, tout ça ne bouge pas. Il y a rien qui bouge. Donc à chaque fois qu'on rajoute quelque chose. Droite comme gauche, ça n'a strictement rien changé depuis...
Donc c'est une indifférence au vivre ensemble.
C'est Jospin qui avait eu cette volonté d'intervenir en disant qu'il allait casser les barres, mais casser les barres, ça ne change rien en soi. C'est un geste qui est esthétique. Il n'y a pas de raison qu'une barre, si elle était corbusienne, la barre, s'il y avait des terrasses sur le dessus qui étaient accessibles, si les fenêtres étaient en long, si les appartements étaient bien foutus, c'est un élément typologique tout à fait recevable. Donc c'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la ségrégation et c'est la mauvaise qualité esthétique et de vie de tous ces bâtiments. C'est quelque chose qui précipite les gens plutôt dans la rue. Ils n'ont pas envie de rester dans des appartements comme ça. Et si en bas il y a rien, et bien, tout le monde comprend ce qui peut arriver.
Comment votre vocation d'architecte peut-elle évoluer par rapport à cette nouvelle donne qui a l'air de se préciser pendant encore très très longtemps, on parle de décennies, cette nouvelle donne qui est le désir des réfugiés de venir au mépris de leur propre vie habiter en Occident?
Oui, mais ça c'est aussi une vieille question. Hein. Comme on n'a pris aucune décision avant sur le fait d'aller dans ces pays-là construire ce qu'il fallait, qu'on n'a pas du tout aidé les pays en question, on se retrouve devant cet afflux. Mais je pense que le problème, c'est pas uniquement d'accueillir des personnes, c'est de faire en sorte qu'elles puissent rester chez elles et qu'on puisse développer, qu'elles puissent vivre chez elles. Alors là, il y a les questions évidemment d'ordre politique et de sécurité avec tout ce qui s'est passé, bon, l'Irak, Bush et tout ce qu'on connaît, bon. Mais au-delà de ça, il y avait déjà des Africains, qui se mettaient dans les trains d'atterrissage et qui mouraient parce qu'ils voulaient rentrer. Ça, j'avais dénoncé ça pour une biennale en l'an 2000, sur l'urgence permanente. C'était tout ça était dit. En l'an 2000, à la biennale, tout était dit. Donc tout ça, on ne le découvre pas. On le découvre au fur et à mesure. Mais tous ces problèmes-là, ils sont posés. Si les politiques ne veulent pas le résoudre, et si on ne met pas ça comme un des critères de choix politiques fondamentaux, ça me paraît grave. Donc c'est une prise de conscience, effectivement, c'est une résistance, une prise de conscience qu'il faut provoquer, et il faut bien montrer que l'organisation des territoires se fait avec ce qu'on appelle l'architecture aujourd'hui, et que cette architecture, elle doit être, en même temps que la transformation, un acte culturel qui permet aux populations de vivre de la meilleure façon et d'intégrer une dimension hédoniste, une dimension de plaisir. Moi, je crois que l'architecture, c'est un acte sentimental, en fait. Bon, c'est-à-dire, si on n'aime pas les personnes pour qui on construit, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il faut donner quelque chose avec l'architecture. Et c'est pas une question d'argent, ça. C'est une question de pensée, de volonté. Et c'est une question, quand même, d'organisation du mode de construire. Aujourd'hui, on arrive à des aberrations. C'est les grandes entreprises qui sont devenues les clients. C'est les grandes entreprises qui donnent des ordres aux architectes. Non, c'est pas un hasard. C'est cette concentration-là. Et c'est quand même hallucinant que ce soit les entreprises qui décident ça on le fait, ça on le fait pas. Alors évidemment, tout ce qui est un peu compliqué, ils veulent pas le faire, ou ils demandent des prix incroyables. Donc on a tout inversé, c'est-à-dire que l'acte architectural a perdu son autorité et sa légitimité et son côté le plus naturel. Et si on considère que cet acte-là est quantité négligeable aujourd'hui, c'est très grave, pas pour les architectes, c'est très grave pour tout le monde.
Alors comment requalifier votre fonction qui est nécessaire pour le vivre ensemble?
Mais pour le faire cela, il faut des alliés. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, c'est pas les architectes seuls qui peuvent faire ça. Il faut parler avec les intellectuels, il faut parler avec les associations d'habitants, il faut parler avec tous ceux qui sont concernés, avec les partis politiques, il faut parler avec tous ceux qui sont concernés par cette mutation qui est de plus en plus indispensable et qu'il faut accélérer.
Quand le bâtiment va, tout va, c'est un adage populaire, mais quand la construction ne répond pas aux nécessités de la population, on peut se dire qu'il y a peut-être des principes d'effondrement d'une démocratie.
Quand le bâtiment va, tout va, c'est ce que les politiques pensent en termes économiques. Autrement dit, on raisonne toujours en termes quantitatifs. On est toujours dans l'urgence, on veut créer des choses. Le problème, il n'est pas quantitatif aujourd'hui. Là. On a passé la grosse crise, bon, même si d'autres pays sont encore dans le quantitatif. C'est plutôt un problème d'évolution. C'est un problème d'approfondissement. Il faut faire des logements et de l'architecture avec sérénité. Il faut pas arriver toujours à n'importe quel endroit parce que j'ai besoin de tout ça pour demain matin. Et le faire vite et mal, en général.
Et la plupart des projets se font dans la précipitation.
Ils se font comme ça. Ils se font comme ça et sans un background et sans une attitude qui est profonde et généreuse.
C'est peut-être parce que les politiques n'ont pas une vision de l'avenir.
Ils n'ont aucune vision de ça. Je pense qu'ils peuvent admettre qu'ils trouvent que ça va très bien, finalement.
Et vous projetez où dans vos projets? Jusqu'à quand?
Moi, dans mes projets, je suis effectivement dans différents pays, avec différents types de programmes.
Comment vous faites pour construire tout ce que vous faites? Combien de personnes? 150 dans votre atelier?
On est 130 à peu près. Mais on travaille beaucoup avec des partenaires qui sont dans les pays où on construit aussi. On travaille avec beaucoup de partenaires aussi au plan technique qui sont pas avec nous. Mais je dirais que chaque projet c'est une spécificité. C'est à chaque fois ce que j'appelle.
Il n'y a pas de style Jean Nouvel.
Mais le style Jean Nouvel, moi je dis qu'un style c'est une permanence d'attitude. Mais c'est pas la répétition d'un vocabulaire formel. Ça n'a jamais été ça un style. Donc je pense qu'il y a un style Jean Nouvel. Le style Jean Nouvel, c'est de considérer que chaque lieu et chaque client a droit à une réflexion totale et à un projet complet, un investissement complet, et qu'il y a à chaque fois une relation directe entre un bâtiment qui est là et ce qui est autour, et les gens qui le vivent. Donc un bâtiment qui n'a pas de racines est un bâtiment qui ne devrait pas exister.
Dernière question, Jean Nouvel, vous habitez où ?
J'habite à Paris, j'habite dans un vieil immeuble que je n'aurais jamais cru habiter, c'est par hasard. Et ce qu'il y a d'un peu triste, je trouve, c'est que, pas pour moi, mais c'est que ce que j'ai trouvé là, qui est une vieille architecture, il y a de grandes fenêtres, une grande hauteur sous plafond, c'est dans une cour qui est calme, bon, et finalement on n'arrive pas à trouver ça aujourd'hui dans les logements qui sont sur le marché, parce que tout est vu par le petit bout de la lorgnette.
Ben vive le vieux alors.
Vive le vieux, voilà.
Merci beaucoup Jean Nouvel. Merci à Delphine Baudet, à Corinne Amard, Samuel Bernard, Élodie Royer et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.